Vous êtes bien sûr Europe 1, il est midi.
Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
Le candidat de La République En Marche à l'élection municipale de Paris jette donc l'éponge. Benjamin Griveaux dénonce des attaques ignobles après la diffusion de vidéos à caractère sexuel. Toute la classe politique est choquée. On fait le point dès le début de ce journal. Mathieu, et nous recevrons Olivia Grégoire qui était sa porte-parole pendant cette campagne.
Les premiers Français rapatriés de Wuhan en Chine ont pu quitter le centre de vacances de Carry-le-Rouet où ils étaient confinés depuis maintenant 14 jours.
Notre souci, c'était de revoir nos proches en étant sûrs d'être en sécurité et pour eux et pour l'ensemble de la France aussi. Donc voilà, on est tous très contents.
Nouvelle journée de mobilisation des personnels hospitaliers aujourd'hui et Agnès Buzyn qui annonce la fin des concours d'entrée dans les écoles d'aide-soignants pour susciter des vocations.
Dans ce journal également, le bureau de l'Académie des Césars qui se saborde à 15 jours de la grande cérémonie sous le feu des critiques.
Et puis un appel à témoins lancé pour retrouver un grand prématuré enlevé par sa mère.
Nous vous raconterons aussi cette histoire de test de grossesse pratiqué sur des joueuses professionnelles de handball sans qu'elles soient au courant. Et puis ce soir, ce sont les victoires de la musique avec notamment Angèle, grande favorite.
C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher.
On vous dit tout à la fin de ce journal. La météo, Anissa Haddadi.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour.
Eh bien, c'est une belle journée aujourd'hui. La semaine se termine bien avec un temps calme cet après-midi. De nombreuses régions seront sous le soleil. Au nord-ouest, le ciel est un petit peu plus nuageux. Tous les détails à la fin du journal.
Merci Anissa, on vous retrouve midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Benjamin Griveaux a donc pris la parole à 9h ce matin dans une vidéo pour annoncer son retrait de la course à la mairie de Paris.
Oui, après la diffusion sur Internet de deux vidéos à caractère sexuel attribuées à Benjamin Griveaux, écoutez-le.
Hier, un site Internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
Voilà pour la déclaration de Benjamin Griveaux. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que ces deux vidéos circulent depuis mercredi soir.
Oui, mercredi soir, l'artiste contestataire russe réfugié en France, Piotr Pavlensky, met en ligne ses vidéos. Il a expliqué hier à nos confrères de Libération tenir ses vidéos d'une source qui avait une relation consentie avec Benjamin Griveaux. Les vidéos commencent à circuler mercredi soir, de façon confidentielle d'abord. Mais hier, les tweets y faisant référence se multiplient tout au long de la journée. Le député ex-En Marche, Joachim Sonneforget, relaie même le lien vers le blog initial sur son compte Twitter, qui compte plus de 50 000 abonnés. Le chef de l'État en déplacement en Haute-Savoie est prévenu de la crise dans l'après-midi. Benjamin Griveaux annule ses passages médiatiques prévus aujourd'hui et convoque son équipe et ses têtes de liste d'arrondissement ce matin à 9h, heure à laquelle il a officialisé la fin de sa campagne après s'être entretenu tard hier soir avec Emmanuel Macron, qu'il a assuré de son soutien, quelle que soit sa décision, en l'invitant à protéger les siens.
Aurélie, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On est à un mois du premier tour des élections municipales.
Eh bien, les réunions de crise s'enchaînent aujourd'hui pour trouver une réponse à cette question. Dans l'équipe de campagne, on nous dit qu'il y aura bien une liste le 15 mars prochain et différents scénarios circulent évidemment en coulisses. Marlène Schiappa, aujourd'hui candidate dans le 14e arrondissement, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui il y a quelques jours avait renoncé à se porter candidate dans le 15e en plein coronavirus, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, Stanislas Guérini, patron du parti et député de Paris, Delphine Burkly, la maire ex-LR du 9e qui avait rallié Benjamin Griveaux, Cédric Villani, exclu il y a quelques jours d'En Marche. On va réfléchir collectivement, rapidement, à la meilleure proposition pour continuer à incarner notre projet. C'est ce qu'a dit Stanislas Guérini il y a quelques instants.
Il y a aussi quelque chose de marquant, Aurélie, c'est que c'est la première fois qu'un politique est victime de ces revenge porn.
Oui, le revenge porn, vous savez, c'est cette pratique qui consiste à diffuser des vidéos intimes d'une personne sans son consentement. C'est interdit, disons-le très clairement. Et c'est inédit en France que cela vise une personnalité politique. Un procédé qui indigne la classe politique. Cédric Villani dénonce une menace grave pour notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon s'insurge. Refusons le naufrage voyeuriste de la vie publique du pays. Non, tous les coups ne sont pas permis. L'ancienne ministre socialiste Aurélie Filippetti écrit « Ce n'est plus aux chiens qu'on livre les hommes désormais, mais aux rats planqués au fond des pires égouts ». La maire de Paris a aussi réagi. Anne Hidalgo appelle au respect de la vie privée et au respect des personnes.
Merci Aurélie Herbemont. Effectivement, les réactions se multiplient. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe qui vient de s'exprimer laconiquement.
La décision prise par Benjamin Griveaux, je la respecte. J'aurai l'occasion de lui exprimer directement ma sympathie et mon soutien.
Voilà pour cette première déclaration du Premier ministre. Olivia Grégoire nous a rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous étiez la porte-parole de Benjamin Griveaux pendant cette campagne. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Avant d'être porte-parole, d'ailleurs je n'étais pas officiellement porte-parole, je suis surtout une amie de Benjamin Griveaux. Je ressens déjà une forme de tristesse, premièrement. C'est un homme que je respecte, c'est un homme dont on a beaucoup critiqué, sa personnalité, qui il était. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a peut-être une bonne chose dans cette tempête, c'est que Benjamin Griveaux prouve, s'il le fallait encore une fois, qu'il est l'homme que je connais. C'est un homme qui a deux caractéristiques, c'est un homme courageux, c'est un homme libre. Il a donc pris une décision à la hauteur de ce qu'il est. Il l'a pris seul, je tiens à le dire, à le redire. Je n'étais pas à ses côtés lorsqu'il a échangé avec le président de la République. Mais je sais, pour avoir échangé avec lui après, l'avoir écouté avec beaucoup d'attention ce matin à 9h, que c'est sa décision. C'est une décision qu'il a prise en âme et conscience, qu'il a prise aussi avec sa moitié, son épouse, et qu'il a prise dans un intérêt, l'intérêt de sa vie de famille, de sa vie personnelle. Évidemment triste, évidemment aussi plus qu'en colère, je suis assez inquiète. Inquiète de ce que ça veut dire en termes de procédé, inquiète de ce que ça prépare, inquiète de l'impact de ces procédés aujourd'hui pour notre République. Vous savez, moi je suis députée depuis 2 ans et demi, je n'étais pas élue avant, je reste une citoyenne à part entière et je réagis aussi en citoyenne et je suis assez inquiète de ce que ça présage.
Il faut bien redire, Olivia Grégoire, qu'il n'y a rien d'interdit dans ce qu'a fait Benjamin Griveaux dans ses vidéos. Ce qui est interdit, c'est de le diffuser. Voilà. Pourquoi du coup il démissionne ? Est-ce que quelque part il ne cède pas devant la pression ?
Vous savez, alors là, s'il y a bien un bonhomme entre nous qui ne cède pas aux pressions, et j'ai eu l'occasion de le voir de jour et de nuit depuis plus d'un an que je suis à ses côtés, notamment sur les sujets médiatiques, et Dieu sait si on a traversé des crises ensemble à ses côtés, c'est bien lui. Il n'est pas homme à fuir, il n'est pas homme à démissionner. Après, vous savez, une campagne aussi importante que Paris pour La République En Marche, c'est une campagne qui demande d'y être à 2000%, comme il y était depuis un an, dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Quand on est touché, comme il l'est, lui et son entourage très proche, je pense qu'on n'est plus forcément aussi fort.
Il y avait un risque de surenchère aussi, peut-être ?
Vous savez, le pire n'est jamais certain. J'ai appris ça très tôt en politique. Je ne sais pas s'il y avait des surenchères. J'ai vu passer des papiers qui ont été retirés, dépubliés hier soir, qui disaient qu'il y avait des surenchères possibles. Vous savez, je crois que les mots d'Aurélie Filippetti, que je me suis permis de remercier, sont justes. Des chiens, des rats, je ne sais pas comment on appelle ça. Dans ces cas-là, il faut penser à tout. Et évidemment, le pire n'étant jamais certain, je pense qu'il fallait mieux arrêter. Après, vous savez, c'est l'homme qui a pris cette décision. On vit des moments difficiles, nous aussi, les parlementaires, en tant que députés en ce moment. Et parfois, je me dis souvent, on oublie que derrière tout ça, il y a des bonhommes, des bonnes femmes. Enfin, je veux dire, on est on a nos sensibilités et j'ajoute qu'on a nos failles, nos fêlures. Et franchement, on a tous, à commencer par moi, des secrets. Vous savez, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps d'un jeune homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Quentin Lafay, qui a été victime des Macron Leaks pendant la campagne présidentielle et qui raconte avec beaucoup d'intelligence à quel point le fait que l'intime soit mis sur la place publique est destructeur. Et je pense qu'on assiste à ça. Et je suis très inquiète du dévoilement de l'intime de plus en plus. C'est plus qu'au-delà de la ceinture, vous me pardonnerez l'expression. Je ne sais pas jusqu'où on va aller.
Et la suite, Olivia Grégoire ? Il y aura une liste La République En Marche, au municipal ?
Vous savez, je n'irai pas vous dire qu'à chaque chose malheur est bon, parce que je l'ai malheureusement entendu trop de fois dans ma vie, mais j'ai une certitude, et je l'ai assez vécue. C'est dans l'adversité qu'on voit la réalité de la solidité des familles. Je peux vous garantir que ce matin, en écoutant Stanislas Guérini qui était à nos côtés à 9h, Stanislas a eu une expression qu'il m'autorisera, que je partage. Il n'a pas réagi, il a réagi en ami ces dernières heures. C'est un ami proche de Benjamin Griveaux, mais il a réagi en chef de parti devant nous. On est unis, on est absolument comme un bloc avec nos 17 têtes de liste. On a un programme que nous avons présenté hier. J'étais assise juste à la gauche de Benjamin Griveaux. Ce programme, il est fort, on le porte ensemble, on l'a écrit ensemble. On est fiers de ce programme.
Mais qui pour le
et
remplacer ?
Et on ira jusqu'au bout.
Qui donc, pour le remplacer ?
Déjà, autorisez-moi de vous répondre que sans embâge, il y aura une liste La République En Marche et nous serons présents.
Mais un vous mois, m'autoriserez... c'est court. Un mois, c'est
oui,
très court
maintenant,
pour désigner quelqu'un.
Bien sûr, la déflagration médiatique de ce matin, faut déjà qu'on l'encaisse. Après, Stanislas Guérini a déjà pris ses responsabilités. On se voit cet après-midi. De nombreuses réunions sont organisées. Il ne vous a pas aussi échappé que nous ne sommes pas seuls. Benjamin Griveaux avait réussi un rassemblement avec le Modem, avec l'UDI notamment. Aujourd'hui, nous devons parler avec nos amis, nos partenaires. Et c'est ensemble qu'on va réfléchir dans les prochaines heures. Il y a deux mots. On est unis et on est réactifs. Ce ne sera donc pas dans 8 jours que vous aurez une réponse à cette question.
Merci Olivier Grégoire en tout cas d'être venu nous répondre à nos questions dans le studio d'Europe 1.
Et à l'instant, la dernière réaction politique en date, celle de Rachida Dati, je vous la donne puisqu'elle est elle aussi candidate. Les Parisiens méritent une campagne apaisée et digne.
Midi 11, votre journal continue avec Mathieu Charrier et Raphaël Duchemin.
Les premiers Français rapatriés de Chine en raison de la crise du coronavirus sont sortis de quarantaine ce matin.
Ils étaient 180 confinés dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet. Ils ont passé 14 jours à l'isolement par mesure de précaution. Mathieu, finalement, aucun n'avait contracté le virus.
Oui, et depuis 6h30 ce matin, ils retournent à leur vie normale. Des bus et navettes les dirigent vers les gares ou aéroports de la région, mais certains repartent aussi par leurs propres moyens. Nathalie Chevance, vous êtes sur place pour Europe 1 et vous assistez aux retrouvailles.
Oui, une trentaine de rapatriés qui ont fait le choix de retrouver leur famille ici directement à Carry-le-Rouet. Des pères, des mères, des frères, des maris venus en voiture des quatre coins de la France pour accueillir leurs proches. Et parmi eux, Charles, commerçant à Wuhan, qui sort de 14 jours de confinement heureux.
On veut tous retourner à une vie normale, revoir nos proches. Et en tout cas, notre souci, c'était de revoir nos proches en étant sûrs d'être en sécurité et pour eux et pour l'ensemble de la France aussi. Donc voilà, on est tous très contents.
Vous allez faire quoi là maintenant ?
Voir mes amis, ma famille et bien manger ensemble. Chose qu'on n'a pas pu faire depuis très longtemps.
Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
La solidarité humaine et toute la chaîne humaine qui s'est installée autour jusqu'aux équipes médicales, la Croix-Rouge, la sécurité civile, tout ça, c'était vraiment énorme.
Reprendre le cours de sa vie sans masque, sans contrôle sanitaire, certificat de non-contamination en poche. Eric, lui, retrouve sa femme qu'il avait laissée en Chine. Étreinte, larmes dans les yeux, à moitié soulagée car une partie de la famille est restée là-bas.
Demi-liberté, parce que ma femme, elle est de Wuhan, donc on va s'inquiéter pour ses parents et sa famille maintenant. La plus grande crainte, c'est d'atterrir dans un hôpital chinois. Mais c'est vrai que ma femme, je suis content de la revoir.
Là, vous avez envie de quoi ? De la serrer dans vos bras ?
Bien sûr, je ne l'ai pas vue depuis un mois et demi, oui. Je l'aime tous les jours, pas que la Saint-Valentin.
Voilà, et le couple est reparti discrètement, comme la plupart des rapatriés d'ailleurs, qui pour certains se sont promis de se retrouver en Chine le plus tôt possible.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 dans le Sud-Est.
Les soignants sont de nouveau dans la rue aujourd'hui, Mathieu, 11 mois après l'embrasement des urgences.
Avec un feu qui couvre toujours et des soignants appelés en ce jour de Saint-Valentin à déclarer leur flamme au service public. Malgré quelques annonces de la ministre de la Santé, la révolte continue. Les blouses blanches réclament notamment 600 millions d'euros dès cette année.
Et c'est dans ce contexte que la ministre de la Santé a annoncé la suppression dès la rentrée prochaine du concours d'entrée dans les écoles d'aide-soignants car le nombre de candidats et de candidates ne cesse de diminuer alors que les besoins explosent. Roman Oki.
Entre 2012 et 2017, le concours a perdu 25% de ses candidats. Un constat qui n'étonne pas Hugo, jeune aide-soignant dans un hôpital parisien.
Il n'y a rien qui peut les attirer. Ça va être 2 aide-soignants pour 30 patients, donc ça veut dire que c'est 15 toilettes par aide-soignant, ce qui est ingérable. On nous demande d'être à la chaîne. C'est une des choses qui fait peur aussi, c'est qu'on demande aux soignants d'être rentables.
Le tout pour un salaire d'environ 1500 euros par mois, des contraintes qui pèsent sur le recrutement. Pour inverser la tendance, Agnès Buzyn a annoncé la suppression du concours d'entrée aux écoles. Un frein psychologique pour de potentiels candidats, assure la ministre. Désormais, la formation sera accessible sur dossier, suivie d'un entretien. Un changement salué par Christophe Prodhomme, le directeur de l'école de Saint-Lô.
Il y a 10 ans, j'avais 600 candidats. L'année dernière, j'en avais 150. Si ça peut nous apporter des candidats supplémentaires, pourquoi pas. Néanmoins, on ne voudrait pas non plus trop baisser le niveau.
Avec les aides-soignants, la ministre espère le même succès que pour le recrutement des infirmiers. Dans ce cursus, le concours a été abandonné l'an dernier. Depuis, la formation est devenue l'une des plus demandées sur Parcoursup.
Roman Hockey pour Europe 1.
Il est midi 14.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. L'Académie des Césars qui se saborde à 2 semaines de la cérémonie qui récompense le cinéma français.
Reprise de votre journal avec Mathieu Charrier et Raphaël Duchemin.
Et à 2 semaines de la cérémonie des Césars et en pleine tourmente, Mathieu, le bureau de l'Académie a décidé de se saborder.
Oui, par un communiqué hier soir, les 21 membres ont démissionné tous ensemble pour, je cite, procéder au renouvellement complet de la direction. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, on est le président depuis 2003. Il ne s'est pas exprimé d'ailleurs depuis cette annonce. Mais la vice-présidente Danielle Thompson a pris la parole sur Europe 1. On l'écoute.
Le temps de passer la main est arrivé. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie tout à coup de s'attaquer à la suite de cette aventure qui est très très belle depuis des années et qu'on a réussi à maintenir vivante et que maintenant c'est peut-être à d'autres de le faire. Donc on a senti que c'était probablement la sensation d'une grande partie du cinéma français. C'est avec grand bonheur qu'on leur cède la place. Donc je pense que c'est très très bien comme ça et je suis tout à fait ravi de la tournure que prennent les événements.
Alors Ève Roger, les polémiques se sont succédées ces dernières semaines. Ça devenait intenable pour les membres de l'Académie.
Et oui, ça faisait longtemps que le milieu se plaignait de l'absence de parité au sein de l'Académie des Césars, mais la tension est montée d'un coup mi-janvier au dîner des révélations quand Alain Terzian a refusé de façon autoritaire les marraines choisies par 2 jeunes acteurs, en l'occurrence Claire Denis et Virginie Despentes. Et puis les bugs se sont enchaînés, les 12 nominations pour Roman Polanski, pour son film J'accuse. Et puis cette tribune tonitruante lundi dernier, signée par les plus grands noms du cinéma français, d'Omar Sy à Céline Sciamma, de Jacques Audiard à Agnès Jaoui ou Michel Hazanavicius. Eux reprochent au président de l'Académie des Césars de fonctionner avec son conseil d'administration en cercle fermé. Un club, dit Ariane Ascaride, qui décide de tout, le déroulé de la cérémonie des Césars, les Césars d'honneur, le budget, et cela en toute opacité.
Alors, on le disait, la cérémonie est dans 15 jours. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de direction à ce moment-là ?
Non, non, non. La démission ne sera effective qu'après la cérémonie du 28 février. Il faudra ensuite plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant l'élection d'une nouvelle équipe. Mais ce geste spectaculaire n'empêchera sans doute pas les couacs, une fête du cinéma qui s'annonce à très haut risque.
Les explications d'Ève Roger pour Europe 1.
La police a lancé un appel à témoins après l'enlèvement d'un bébé, un grand prématuré, par sa maman.
Oui, l'alerte enlèvement, elle, n'a pas été déclenchée. Salomé Legrand, pour les policiers, il y a urgence à retrouver ce bébé car il est en grand danger.
Et oui, ce nourrisson, une petite fille âgée de tout juste 2 semaines, est née grand prématurée, vous l'avez dit, elle a été enlevée par sa mère mardi vers 12h30 dans un hôpital du 10e arrondissement de Paris. D'après les autorités, le bébé est en danger s'il n'est pas pris en charge médicalement le plus rapidement possible. La préfecture de police a donc diffusé une photo de la mère, une femme originaire des pays de l'Est, 28 ans, mince, 1m50, les yeux marrons, les cheveux mi-longs décolorés, les dents abîmées. Depuis mardi, elle s'est rendue dans différentes pharmacies pour acheter du matériel pour nourrissons. Elle est susceptible de se trouver soit en Île-de-France, soit dans le nord de la France et peut-être accompagnée d'une autre femme enceinte, elle, dont la photo est diffusée également. En revanche, pas d'alerte enlèvement, même si ce cas semble correspondre aux critères d'urgence qui permettent de la déclencher. Pour l'instant, aucune explication n'a été donnée par le parquet de Paris.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1, je vous donne le numéro de téléphone si vous avez des informations. Appelez le 0800 00 27 08. Je répète, 0800 00 27 08.
Cette affaire maintenant qui secoue le monde du hand, des tests de grossesse auraient été effectués sur des joueuses du club de Nantes sans leur accord.
Oui, ces tests auraient été glissés au milieu des contrôles de début de saison sans que les joueuses n'en soient averties. Christophe Lamarre, vous avez enquêté pour Europe 1. C'est tout le monde du hand qui est sous le choc.
Oui, et il reste prudent. La présidente de la Ligue féminine de handball devrait communiquer dans la journée. Mais elle veut d'abord démêler les fils, tous les fils. Elle souhaite s'entretenir avec les joueuses et bien sûr avec la direction du club qui a prévu de s'exprimer à 15h aujourd'hui. Au départ, il s'agissait de pratiquer des bilans biologiques en clair, avoir un tableau précis de l'état de forme des joueuses avant que la saison ne débute. Rien d'anormal. Mais là où cela devient illégal, c'est qu'il aurait été prescrit une analyse afin de détecter un état de grossesse, et cela à l'insu des joueuses, donc sans leur accord. C'est interdit. Et c'est ce que dénonce l'Association des joueurs professionnels de handball. La question est de savoir si c'est le club qui l'a demandé ou s'il s'agit de l'initiative personnelle du médecin du FC Nantes. Le président Arnaud Ponroy affirme qu'il n'a rien demandé, mais balaie toute mauvaise intention. Ces tests ont été réalisés avec leur accord, dit-il, avant d'ajouter. Ils permettent d'adapter éventuellement la charge de travail et d'adapter les traitements médicaux. Des propos qu'il devrait à nouveau tenir cet après-midi au cours de la conférence de presse qu'il doit tenir à 15h.
Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1.
Europe 1, il est midi 21.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. On parlera des victoires de la musique qui font leur mue pour tenter de se relancer. A tout de suite.
Suite de votre journal avec Mathieu Charrier et Raphaël Duchemin.
Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi.
Vous aurez sûrement reconnu l'artiste Angèle. Elle fait partie des favoris pour les 35e victoires de la musique, c'est ce soir.
Elles se dérouleront à la scène musicale à Boulogne-Billancourt et en direct sur France 2. Cérémonie suivie par notre Angèle Anou. Mademoiselle Châtelier, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, vous allez nous donner les favoris de ces victoires. Mais d'abord, ce qu'il faut expliquer, Angèle, c'est qu'il va y avoir pas mal de changements ce soir pour essayer de rebooster les audiences.
À commencer par la suppression de certaines catégories. Fini une victoire pour l'album rap, rock ou musique du monde. Tout est regroupé dans l'album de l'année. On mélange donc la mélancolie de Vincent Delerme, l'album poétique d'Alain Souchon, au rap de Nekfeu.
Je m'intériorise et je me replie. Les cris d'une jeunesse meurtrie imprégnant mon humeur. Je vois les leaders imposer leur tri.
Alors officiellement, c'est parce que les limites entre les genres musicaux sont devenues poreuses, mais officieusement, c'est surtout pour gagner du temps. La cérémonie est souvent jugée trop longue. Mais il y a là un écueil. On remarque qu'il n'y a aucun artiste de musique électronique qui est nommé, pourtant le genre musical le plus exporté à l'étranger, et plus d'artistes de musique du monde. Et puis, quid d'Aya Nakamura, nommée nulle part, et qu'on l'aime ou non, elle reste un phénomène de l'année. Romain Vivien, le nouveau président des Victoires, est bien conscient qu'il ne pourra jamais contenter tout le monde.
La question, c'est on enlève qui ? S'il est légitime et qu'il représente en partie l'année écoulée, eh ben déjà, c'est pas mal. Et puis surtout, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une opportunité fantastique pour les artistes de venir jouer en live et en direct sur un média national leur titre, avec un grand orchestre s'il le souhaite. Et ça, c'est pas tous les jours à la télévision.
Autre nouveauté, pour la première fois, le public peut lui aussi voter pour 3 catégories au lieu d'une: meilleur clip, chanson et surtout meilleur concert, pour mieux impliquer les fans.
Alors Angèle, côté artistique maintenant, quels sont les favoris pour ces victoires de la musique ?
Il y a évidemment la chanteuse Angèle, l'artiste qui a vendu le plus d'albums l'année dernière, mais forcément Alain Souchon a lui aussi ses chances. Il est nommé dans 3 catégories, mais il a déjà 9 trophées des victoires à son actif. Son album Am 50s est son premier en solo depuis 11 ans.
À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace.
Côté révélation, beaucoup mise sur Suzanne, l'artiste qui a fait le plus de concerts en festival l'année dernière, une artiste de son temps, féministe, positive et engagée notamment pour le climat. Enfin, la révélation de cette année reste la chanteuse Pomme, à la voix cristalline et au texte si juste. Son deuxième album, Les Failles, est une merveille qui mérite pour beaucoup d'être consacrée ce soir aux victoires de la musique.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1 et sur la musique de Pomme, je vous donne un mot de football. On connaît l'affiche des demi-finales de la Coupe de France. Lui, on sera opposé au Paris Saint-Germain alors que Saint-Etienne affrontera Rennes.
Merci Mathieu, vous revenez à 13h dans vos journaux sur Europe 1.
Europe 1, il est midi 27.
Europe 1.